À toutes et à tous, très content d'être avec vous cet après-midi pour partager la parole de Dieu dans cette saison de l'Avent. Je crois que c'est bon comme ça. C'est vrai que, comme Thierry a dit, c'est un peu redoutable d'être de ce côté. Mais le Seigneur est là, et c'est lui qui parle à travers sa parole. Pour moi, c'est l'attente que j'ai quand je viens dans cette place-là. Donc c'est pas moi, c'est le Seigneur qui vous parle à travers, j'espère bien, les paroles de cette prédication. Dans cette saison du Père Noël, bon, c'est pas la seule chose de la saison, bien sûr, mais c'est une chose dans notre monde, c'est qu'il y ait quand même qui marque, et surtout les enfants. J'aimerais vous parler de deux pères beaucoup plus importants. Un père terrestre et un père céleste. Il s'agit d'une promesse faite et tenue. Et c'est dans la lignée de la prédication que j'ai donnée il y a quelques semaines. Voyons la promesse de nos pères en commençant par la lecture d'un récit trouvé dans la Genèse. Donc on va continuer de prolonger notre réflexion dans ce livre-là. C'était en fait le texte qui a été lu. Ça faisait partie de la prédication que j'ai faite il y a quelques semaines. Et donc ça tombe bien que ce soit ce texte-là qu'on a médité un petit peu avant cette prédication. Mais nous allons continuer à méditer le texte de l'Écriture, la parole de Dieu, à partir du verset premier de chapitre 22 de la Genèse. Donc je vous invite à tourner votre Bible si vous en avez, sinon il y en a en fait qui sont à votre disposition. Chapitre 22, livre de Genèse, verset 1er. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva du bon matin, cela son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs: « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant: « Mon père. » Il répondit: « Me voici, mon fils. » Isaac reprit: « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit: « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit: « Abraham, Abraham !» Il répondit: « Me voici. » L'ange dit: « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par des cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Je propose, avant de continuer de prier ensemble, excusez-moi pour ça, on va prier. Merci Seigneur de ta parole. Merci de nous adresser cette parole, Seigneur, si importante dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur de verser de ton esprit afin que nous puissions comprendre cette parole pour nous aujourd'hui, parce que c'est une parole vivante qui concerne la vie actuelle. Seigneur, aie pitié de nous, donne-nous des yeux à voir, des oreilles à entendre ce que tu as à nous dire à travers cette parole, ce passage en cette saison de l'Avent. Seigneur, pour ta gloire et notre bien, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Heureusement. Le premier Noël a son origine dans une promesse lointaine faite à un Père terrestre. Donc, parlons de la promesse faite à un Père terrestre pour commencer. Ce message donne suite à un fil conducteur qui est la semence promise au tout début de l'histoire de l'humanité et dont je vous ai parlé il y a 3 semaines à peu près. Cette fois-ci, la semence en question concerne l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, on l'a bien vu dans le texte. La problématique est que ce sacrifice semble aller à l'encontre même du projet de Dieu selon sa parole adressée à Abraham. Abraham est le père de la descendance ou de la postérité ou la semence promise. Nous le savons implicitement par la suite de l'histoire biblique. Nous le savons explicitement par le verset dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3, verset 16, qu'on lit et que dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de beaucoup, mais il s'agit d'un seul, à ta descendance qui est le Christ. La suite de l'histoire d'Abraham nous montre le caractère particulier de la promesse. Dieu va à la rencontre d'Abraham pour faire alliance avec lui et pour confirmer que sa progéniture même sera au centre du projet que Dieu forme sur l'humanité pour défaire justement le dégât fait dans le premier jardin. On l'a lu aujourd'hui. On en a parlé il y a 3 semaines. En plus, la naissance de cette descendance va être hors du commun, surtout qu'Abraham et son épouse Sarah sont avancés, voire même très avancés en âge. L'idée est tellement hors du commun que Sarah, quand elle entend ce que Dieu dit, elle en rit lorsqu'elle a entendu cette nouvelle, d'où le nom Isaac qui veut dire rire. Je crois que Dieu a le sens de l'humour. Le verset dans l'Épître aux Galates nous éclaire quant à la nature de cette descendance. Et cette descendance, il s'agit de, en fait, toute l'histoire biblique. Donc c'est très important. C'est un fil conducteur. Autant sa postérité sera nombreuse, autant elle sera unique. C'est un peu énigmatique. Énigmatique. Vous me comprenez. Le texte explicite que la descendance fait allusion à Christ. Nous allons en dire plus, mais avant, parlons du père de cette lignée de descendance nombreuse, car si Abraham est appelé ainsi, c'est parce que Dieu l'a rendu père d'une multitude de nations. Et là, nous le lisons dans le chapitre 17, verset 5 de la Genèse. C'est ce que son nom signifie, Père d'une multitude de nations. Et là, ça a beaucoup à voir avec le projet de Dieu dans le monde et même le monde actuel. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons qu'Abraham est le père de tous ceux qui croient. Donc pour le croyant, c'est quelqu'un d'incontournable. L'importance d'Abraham, bien que visible dans l'histoire lue aujourd'hui avec Isaac, dépend aussi de son comportement bien avant. Et justement, au chapitre 15 dans la Genèse, au verset 6, nous lisons ceci. Abraham, donc son nom avant qu'il devienne en fait père de toutes ces nations, en quelque sorte, Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Encore un autre verset très, très, très important, clé même à la réforme dont nous réjouissons. C'est la foi qui le rend juste et rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que sa foi en Dieu qui sert de modèle pour tous. Ce n'est pas sa vie, mais sa foi. Il faut bien faire la part des choses. Le père d'Isaac, dans la lignée de ceux qui font confiance à Dieu, est le père de tous ceux qui croient et qui sont rendus justes par Dieu, pas par leurs actes, mais par leur foi. Quelle est donc la nature de cette foi d'Abraham qui sert de référence pour tout croyant ? C'est une confiance dans la parole que Dieu lui a adressée. Simple. Dieu lui a adressé cette parole pour dire que sa propre descendance sera à l'origine d'une bénédiction incroyablement vaste qui touchera même toutes les nations de la terre. Quelle promesse ! Quelle parole ! Le problème, et nous voyons dans le texte, Dieu lui demande d'ôter la vie du fils qu'il a donné à Abraham, à Sarah, le fils de la promesse même. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Abraham, sûr de la parole de Dieu quand même, quant à sa descendance, montre cette certitude en obéissant sans défaillance à l'ordre qu'il a reçu. Lorsque Dieu voit cette confiance, il intervient pour l'empêcher et puis il lui pourvoit une autre victime. La foi d'Abraham est mise à l'épreuve et il montre la réalité de cette confiance par un geste concret et coûteux. Il s'agit justement d'un couteau. La foi qui reste sans geste, écoutez bien, est une foi morte, comme dit Jacques dans son épître qui fait justement allusion à notre texte. Donc je vous le conseille à lire peut-être cette semaine. Qu'est-ce qui indique que la foi est véritablement présente chez quelqu'un ? Qu'est-ce qui indique que la foi est véritablement présente chez quelqu'un ? Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Ce sont les gestes concrets qui démontrent la présence de la foi. Une question mérite d'être posée ici, pour nous. En quoi votre vie est-elle différente puisque vous avez la foi en Dieu ? Puisque vous avez fait confiance à Dieu en Christ. En quoi votre vie est-elle différente puisque vous avez la foi en Dieu? Quels sont les gestes quotidiens qui démontrent cette foi? Oui, ce geste-là, c'est remarquable, le geste d'Abraham. Mais la foi est faite de gestes tout autour de la vie. Inspiré par la foi, quels sont les gestes quotidiens qui démontrent cette foi? S'ils ne sont pas évidents, pourra-t-on prétendre avoir une foi véritable? En tout cas, les gestes concrets de la foi d'Abraham sont évidents et valides. La promesse faite à ce père terrestre afin que sa descendance devienne quasi incomptable. Creusons encore. Et plus pour comprendre la foi du Père des croyants. D'abord, voyez ceci, que c'est une foi prête à tout perdre. Prête à tout perdre. Il n'y a pas d'indice qu'Abraham a hésité d'obéir. Il a pris tout le nécessaire et se mis en route avec son fils. Il a déjà interrogé Dieu, il y a quelques chapitres avant, quant à sa descendance, en lui demandant si ce serait par Ishmaël que la promesse sera réalisée. Donc il se posait la question, lui, et il a posé la question à Dieu, et Dieu a répondu. Dieu a été très clair qu'Isaac et lui seul étaient l'objet de cette réalisation. Donc Abraham est sûr de ce qu'a dit Dieu malgré l'ordre qui semblerait aller à l'encontre de la promesse, à savoir ôter la vie à la descendance, à la semence promise. Quelle épreuve! Et c'est justement, ça commence comme ça, Dieu mit Abraham à l'épreuve. En tant que père, cette histoire m'interpelle, père de 3 enfants. Et je me serais certainement interrogé si vraiment j'avais bien compris, entendu la voix de Dieu et qu'il voulait vraiment que je donne mes fils ou mon fils. J'aurais peut-être, et on le fait souvent, réfléchi, oui, je vais réfléchir, jusqu'à ce que je trouve, et on est bien pour ça, un autre sens à ce que Dieu me demande parce que je sais combien j'aime mes enfants. C'est comme ça, le cœur humain. Comment Abraham a pu se mettre à l'acte sans hésitation pour obéir, m'interpelle et me lance un vrai défi quant à la qualité de ma foi? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça vous interpelle aussi. C'est vraiment, on se met dans la peau de cet homme-là. En fin de compte, il doit y avoir une seule explication au comportement d'Abraham. Il a une foi, je vous ai dit qu'en fait, il avait une foi qui était prête à tout perdre, mais il avait une foi aussi qui était sûre que rien ne sera perdu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ainsi aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouvera son fils. Il avait une foi qui était sûre que rien ne sera perdu. Abraham, étant ferme dans sa conviction que Dieu tient parole, reste ferme dans sa résolution de lui obéir, même au point de donner son propre fils, sans se mettre à la réflexion. En quelque sorte, j'imagine il a bien réfléchi, mais il avait réfléchi à la parole de Dieu et à la puissance de Dieu. Abraham est très sûr du caractère absolument fidèle de l'objet de sa foi, Dieu lui-même. Et c'est lui l'objet de notre foi. C'est pas la foi en la foi, c'est la foi en quelqu'un, dans une personne précise, puissante, agissante. Et nous, sommes-nous sûrs du caractère absolument fidèle de Dieu dans tout ce que il nous appelle à être et à faire? Une autre question pour notre actualité. Sommes-nous sûrs du caractère absolument fidèle de Dieu dans tout ce qu'il nous appelle à être et à faire? Je ne réponds pas pour vous. Dieu sera toujours fidèle à tenir sa promesse à notre égard, comme il a été, en fait, comme il a été fidèle à Abraham pour tenir sa promesse à lui. Ce Dieu-là, qui tient par promesse, est décrit comme notre Père céleste. La promesse qu'il fait, c'est la promesse qu'il tient. Voici le deuxième point. Le deuxième point, pardon. La promesse tenue par le Père céleste. Si j'ai choisi ce texte en cette période de l'Avent, c'est parce que les liens entre cette histoire et la venue du Seigneur sur terre sont trop importants, à mon avis. Et donc parlons maintenant du caractère unique de la descendance d'Abraham, car la naissance de l'enfant de Noël est au cœur de la réalisation de la promesse faite dans le jardin, dans un premier temps, et puis à Abraham, dans notre texte. La semence de la femme promise par Dieu trouve son réalisation complète dans cette naissance terrestre où le fils du Père céleste devient le fils de l'homme. L'histoire du Père Abraham nous donne l'aperçu de la façon dont le Père Céleste comptait tenir parole. Parce qu'il y a une histoire plus grande. D'abord, il tient promesse par des interventions extraordinaires. Les deux grossesses dont il est question dans l'histoire d'Abraham et celle de Noël ont un caractère spécial, voire miraculeux. Si la grossesse d'une vieille dame est rarissime, celle d'une vierge est a priori impossible. Et pourtant, les deux ont lieu parce que Dieu intervient pour qu'il y ait conception dans les deux cas. Écoutez bien, l'espoir de notre foi dépend de l'intervention de Dieu dans le monde. L'espoir de notre foi dépend de l'intervention de Dieu dans le monde, dans notre monde. Cette intervention trouve son sens le plus significatif lorsque le Père Céleste envoie son Fils sur la terre. Beaucoup se posent la question sur l'existence de Dieu parce qu'ils ne voient pas de preuve qu'il agit dans le monde. Le problème, à mon avis, ce n'est pas un manque de preuves, mais un manque de vouloir les croire telles qu'elles nous sont décrites dans des textes bibliques. Il s'agit de foi. Il faut vraiment appliquer la foi. Et justement, ces textes-là nous montrent jusqu'à quel point Dieu a agi dans le monde et jusqu'à quel point il continue à agir. On ne peut pas arrêter à la naissance du Fils de Dieu pour comprendre le projet de Dieu pour l'humanité, juste à la naissance de Jésus. C'est important, mais on ne peut pas s'arrêter là. Cela nous amène à un autre aperçu que Dieu donne dans l'histoire d'Abraham que nous avons lu pour montrer jusqu'à où il va aller pour tenir sa promesse. Et donc, Noël n'est pas en fait un fin, c'est un début pour pouvoir comprendre toute l'ampleur de la promesse et là où ça va amener et aboutir. Abraham est prêt à ôter la vie de son fils selon la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il lève la main pour passer à l'acte, Dieu intervient pour l'arrêter. C'est un test pour savoir la vraie nature de sa foi. Et ce qui est incroyable, c'est que Abraham ne savait pas que c'était un test. Nous le savons. Mais notez bien qu'un sacrifice est quand même fait. Pardon, c'était un test pour savoir la vraie nature de sa foi. Mais le sacrifice est quand même fait par Abraham, mais c'est une autre victime pourvue par Dieu qui est donnée. C'est là où nous voyons le projet de Dieu qui va aboutir par le sacrifice d'une victime qui pourvoira lui-même. Abraham est prêt à tout donner pour obéir à Dieu, mais Dieu ne lui demande pas d'aller jusqu'au bout. Alors que pour Dieu, par contre, il va aller jusqu'au bout et tout donner lorsqu'il envoie son fils afin de regagner ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Ce que nous avons contemplé la dernière fois. Dieu se montre fidèle à sa promesse et même si le prix est impensable, et pour un papa c'est impensable, hein, il choisit de le payer pour ce qu'il aime. Noël n'aura aucun sens sans la réalité de la nécessité d'un sacrifice. Ce sacrifice se pointe à Noël lorsque Dieu envoie ce petit bébé innocent qui restera innocent jusqu'à ce qu'il devienne la victime innocente de Pâques. La vie et l'œuvre de cette descendance unique est au centre de ce que Dieu va faire pour réaliser la plénitude de sa promesse, à savoir la bénédiction de toutes les nations de la terre. Je suis là grâce à cette bénédiction, parce que je ne suis pas juif. Le fruit de cette bénédiction est la création d'un nouveau peuple, fait dans l'image même de la descendance promise, l'image véritable de Christ. Nous lisons en Romains chapitre 8, verset 29, « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de qui ? De son Fils. » Si la chute qui s'est produite dans le jardin a gâché l'image dans laquelle l'être humain a été fait, la vie et l'œuvre de Jésus nous la rétablira au fur et à mesure de son œuvre dans nos vies lorsque nous croyons comme Dieu, nous croyons Dieu comme l'a cru Abraham. Écoutez le raisonnement des versets dans l'Épître aux Romains. Je vais lire un petit peu plus. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il a aussi déclaré justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, voyez le lien avec le texte, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Quelle promesse, quelle réalisation. J'espère que vous n'auriez pas loupé la petite phrase dans ce texte-là, dans l'Épître aux Romains, de nombreux frères. Parce que ces quelques mots résument une partie importante du projet de Dieu conçu dans le jardin. Et qui continue avec cette histoire-là. En Jésus, la bénédiction de toutes les nations est réalisée car son œuvre peut faire de tous ceux qui croient un seul peuple. L'accueil que Thierry a reçu et Lynn, c'est grâce à cette réalité-là. On est égaux. Et voilà pourquoi on accueille tout le monde de cette façon-là. Lorsque on sait que c'est Dieu qui agit dans nos cœurs pour que nous puissions devenir ce que nous n'étions pas, un peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Et là, c'est magnifique. Et il en est un fruit notable, remarquable, comme a témoigné Thierry. Nous sommes témoins de la promesse car aujourd'hui nous voyons des personnes de tout horizon et de tout peuple au sein de la famille de Dieu qui est l'Église du Christ. Sa promesse porte déjà et va continuer à porter ce fruit-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un des récits de Noël raconte une annonce faite au berger par l'ange. La bonne nouvelle annoncée est la source de joie pour tout le peuple. Noël est un moment propice pour inviter tous à faire connaissance avec le Sauveur qui est né. Et en guise de conclusion, nous allons en dire encore un petit peu plus sur le sujet. J'ai dit il y a quelques instants que l'espoir de notre foi dépend de l'intervention de Dieu dans notre monde. Et c'est intéressant qu'un des meilleurs moments pour parler la foi se trouve autour de Noël. L'événement par excellence de son intervention, n'oubliez pas. Sont rares les personnes qui n'apprécient pas la saison de Noël. Les gens qui sont plutôt clos quant au sujet religieux pendant le reste de l'année se trouvent plus ouverts pour assister et entendre les choses qui parlent de la foi et de la naissance même de Jésus. C'est quand même quelque chose. Bien sûr, il y a de la superficialité, mais la saison ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est une preuve du fait que Dieu intervient de par cette nouvelle, chaque fois que cette nouvelle est annoncée. Pourquoi une telle ouverture en cette période? Voici, je tente une petite réponse. D'abord, Noël concerne un enfant, un bébé nouveau-né. Tout le monde aime les bébés. Vous allez en avoir des nouveaux-nés bientôt. Ils sont petits, ils sont mignons, ils représentent la promesse d'une vie nouvelle sur laquelle des choses prometteuses peuvent se dessiner, c'est clair. La naissance est un sujet de joie. Il n'y a qu'à regarder les mines dans une maternité d'hôpital la plupart du temps. L'enfant de Noël est la réalisation d'une promesse faite par Dieu à toute humanité. Celle d'envoyer un sauveur qui donnera à tous ceux qui cherchent une nouvelle vie, cette nouvelle vie, justement. Voici un vrai sujet de joie. Voici pourquoi il y a une ouverture en cette période qui est remarquable. Deuxièmement, Noël concerne un roi. Toute personne normale aura du respect pour un roi. On n'a pas de roi comme autrefois et leur autorité n'est guère ce que ce n'était d'autant. Mais seulement le statut peut inspirer l'émerveillement. Pourquoi parle-t-on toujours des familles royales? On le fait. C'est parce qu'il y a un caractère spécial qui va avec et dont le titre ne manque pas souvent de moyens et de finesse. On est très attiré par le côté privilégié et luxurieux que représente la noblesse. L'enfant de Noël est le roi des rois, qui n'est pas comme aujourd'hui la royauté. Il a toute autorité et tout pouvoir, mais pas pour primer, ni pour se vanter, ni pour se forcer, mais pour sauver ceux qui cherchent l'abri sous son règne. Voici un vrai refuge. Troisièmement, Noël concerne un peuple. Chaque être humain a le désir d'appartenir à quelque chose. Sont rares ceux qui se coupent entièrement du peuple auquel ils appartiennent. Notre identité est liée à une famille, dans une culture, dans une société avec des vis-à-vis qui ont goûté au même rite et expérience. Cela nous lie intimement sans que l'on fasse un grand effort. Ça fait partie du tissu de la vie. Un Français sera plutôt fier de l'être, comme d'ailleurs un Américain ou un Italien, ainsi de suite. Et ces trois sont là parce que j'habite en France, je suis Américain, j'ai des origines italiennes, donc c'est intéressé. Hein. L'enfant de Noël est venu pour racheter un nouveau peuple. Ceux et celles recréés dans son image pour appartenir pour toujours au peuple véritable de Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus, comme on l'a lu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici une vraie appartenance que nous proposons en cette période. Et finalement, Noël concerne un nouvel ordre. Un nouvel ordre. Chacun espère un monde meilleur. Notre monde fait preuve de désordre plus ou moins prononcé selon l'endroit et les circonstances. Désordre externe, et apparent, désordre interne et caché. On appelle même des problèmes psychologiques des désordres dans certaines langues. On espère mieux, mais la vie a tendance à bien nous chambarder. L'enfant de Noël est venu pour rétablir l'ordre perdu à cause du péché. Cet ordre est rétabli une personne à la fois et finira par un nouveau peuple qui se réjouira le jour venu d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Voici l'espérance qui attend tous ceux qui font confiance au Père Céleste, tout comme a fait Abraham dans notre texte, notre Père dans la foi. Prions. Seigneur, merci de cette histoire vraie d'Abraham. Merci de ce que elle touche vraiment à notre actualité. Et merci Seigneur pour ton intervention dans le monde, et autrefois et aujourd'hui. Merci de nous convaincre, Seigneur, davantage de cette intervention dans nos cœurs, parce que nous avons besoin de savoir que tu es là, surtout lorsque nous péchons. Merci Seigneur de ta miséricorde, de ton pardon. Merci Seigneur de nous donner l'assurance de partager cette parole de la réconciliation qui se trouve dans la personne de Christ qui est né, qui a vécu et qui est mort et qui est ressuscité pour notre salut. Inspire-nous cette semaine par ton esprit et Seigneur, fais en sorte que les gens autour de nous puissent voir, même si c'est petit, un aperçu de la gloire à venir en Christ. Amen.